Oui, bonjour, ici Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Nous sommes le vendredi 24 mars 2023 et nous voici avec un épisode qui contient deux sujets. Le premier, c'est le trouble de personnalité TPL ou borderline. Le deuxième, ce sera, j'aborderai les désirs extra-conjugaux. Alors, on se rappelle que je suis en train de lire le livre que Joanne Côté et moi avons écrit, notre dernier livre qui s'intitule « La gentillesse dans le couple » et qu'on peut se procurer via Amazon. C'est un livre digital seulement. Alors donc, le deuxième sujet sur les désirs extra-conjugaux, eh bien, je vais poursuivre au prochain épisode ce que je vais commencer aujourd'hui. Ce sera seulement qu'un début pour nous mettre en appétit. Alors donc, dans un premier temps, j'entame tout de suite la première partie qui concerne les troubles de personnalité limite. Et puis, le titre, je commence avec le titre de cette partie, est le suivant. Les amoureuses trop intenses. Certaines personnes sont tellement chaleureuses qu'on aime d'emblée leur présence et qu'on est déçu quand l'heure de la séparation arrive. Mais parfois, cette qualité fait partie du tableau d'une personnalité très troublée qu'on ne détecte pas nécessairement à première vue. La personne vibrante par excellence peut être une borderline. La personnalité borderline, appelée aussi trouble de personnalité limite ou encore TPL, est le trouble de personnalité le plus fréquent. Et au moins 3 fois plus de femmes que d'hommes sont diagnostiquées comme telles. Cette personnalité est particulièrement mouvementée. Le DSM décrit les borderline à peu près de la manière suivante. Ce sont des personnes dont les relations interpersonnelles, l'image de soi et les émotions sont instables, avec une impulsivité marquée. Ces personnes peuvent consacrer des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés. Leurs relations interpersonnelles, instables et intenses, peuvent alterner entre des positions d'idéalisation excessive d'un être aimé, suivies d'une dévalorisation abrupte. Leur identité peut être perturbée. C'est aussi. Alors, ces personnes peuvent être impulsives dans plusieurs domaines, comme les dépenses, la sexualité, la toxicomanie, la conduite automobile, on pense à la conduite dangereuse, et la nourriture, on pense aux crises de boulimie. Alors, les borderline peuvent être suicidaires et peuvent s'auto-mutiler. Leur humeur peut être très instable avec des épisodes de dépression, d'irritabilité ou d'anxiété qui peuvent durer quelques heures, mais rarement plus que quelques jours. Elles peuvent éprouver des sentiments chroniques de vide. Elles peuvent faire des colères intenses et inappropriées et avoir de la difficulté à se contrôler. Les gens confondent facilement cette personnalité avec la bipolarité parce que les borderline changent rapidement d'humeur passant d'un état d'exaltation à une déprime momentanée ou d'une valorisation de leur interlocuteur à la démonisation de celui-ci. Par opposition, les bipolaires sont des gens qui alternent entre des périodes stables de bonne humeur excessive et des périodes stables de dépression pouvant durer plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Les borderline, au contraire, peuvent changer d'humeur d'une seconde à l'autre. En fait, La personne borderline se défend à la fois contre la honte et à la fois contre la peur d'être abandonnée. Typiquement, la borderline a été élevée par des parents qui étaient particulièrement inadéquats. Ils étaient absents ou alcooliques ou abusifs ou non disponibles sur le plan émotionnel ou encore, ils pouvaient même être psychotiques. Et c'est comme si la personne borderline était portée à répéter le scénario cauchemardesque de son enfance en s'impliquant dans des relations amoureuses abusives, contrôlantes et mal adaptées avec des hommes qui sont incapables de rencontrer ses besoins affectifs. Le couple le plus fréquent en thérapie conjugale serait une borderline avec un narcissique, selon Slip en 1995. Avec ces couples, on assiste à de perpétuels conflits. Ce qui attire le narcissique à la borderline, c'est son côté fusionnel. Le malheur, c'est que le narcissique ne voit pas les besoins des autres dans la vie, alors que la borderline s'imagine que si elle était assez bonne, son conjoint narcissique comblerait ses besoins. Elle perpétue donc la frustration émotionnelle de son enfance. Dans les relations amoureuses, la borderline est coincée. Si l'amoureux est trop proche, elle a peur d'être engouffrée, et si au contraire il est trop loin, elle craint l'abandon. On retrouve souvent aussi la borderline avec un conjoint qui manque de vitalité et qui a besoin de stimulation émotionnelle. Celui-ci est égayé par la vitalité et l'exubérance de la borderline. Dans ces cas, la borderline est exacerbée par la distance incompréhensible de cet homme qui peut être schizoïde. Celui-ci apporte du calme, ce qui apaise sa fidélité, c'est-à-dire ce qui apaise sa fébrilité, mais elle finit par souffrir de trop de détachement. Souvent, les relations sexuelles en souffrent car le schizoïde n'a pas une libido aussi forte que la sienne et cela tourne mal. Elle se sent négligée, sinon abandonnée. L'amoureux peut être plutôt un évitant, qui est calme lui aussi, mais il cherche à éviter les conflits à tout prix, ce qui la rend furieuse. Si elle se lie avec un obsessionnel compulsif, c'est la bataille perpétuelle de pouvoir. Un tiers des gens qui souffrent du désordre de la colère se retrouveraient chez les borderline. Ce qui est navrant, c'est que les borderline, comme tous les gens remplis de colère, sont peu motivés à changer cet aspect d'eux-mêmes, voulant plutôt changer les autres qui provoquent leur colère. Pourtant, les borderline ont absolument besoin d'apprendre à se contenir dans la vie. Ces peurs d'être abandonnés qui les mettent particulièrement hors d'eux-mêmes doivent être comprises et travaillées au lieu d'être transférées sur tous ceux qui s'approchent d'eux avec affection. Cette personnalité est fort malsaine et même dangereuse car c'est là où on retrouve le plus haut taux de suicide. Comme pour tous les troubles de personnalité, toutefois, c'est une question de gradation. Certains borderlines sont tolérables et même très attachants, tandis que d'autres sont exécrables et suscitent le rejet immédiat. Que faire? Même si ces personnes sont friandes d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, ces psychotropes ne corrigeront pas leurs attitudes, ne rempliront pas leur vide et ne leur donneront pas la joie de vivre. La psychothérapie intensive individuelle et la psychothérapie de groupe sont particulièrement indiquées. Le thérapeute compétent ne fera pas de collusion, toutefois, avec la borderline contre son conjoint en l'entendant raconter ses malheurs avec lui. Il s'ensuivrait du découragement et possiblement la fin de la thérapie contre toute attente. D'ailleurs, l'intervenant aura la même attitude face au conjoint d'une borderline. Suggérer la séparation comme solution idéale, c'est un faux pas. Le danger, c'est de laisser croire à cet homme que ses problèmes conjugaux s'expliquent uniquement par le trouble de personnalité de son amoureuse dont il serait la victime. Cette position de l'intervenant relève de l'incompétence. En effet, d'habitude, le conjoint aussi a des attitudes et des comportements à réviser. La plupart du temps, les conjoints se retrouvent au même niveau de maturité. Autrement dit, le degré de pathologie de l'un correspond à celui de l'autre tout en se manifestant par des personnalités différentes. Une grande borderline se retrouvera avec un grand narcissique, par exemple. Autrement dit, avec de l'aide, les deux conjoints peuvent évoluer ensemble vers plus de maturité. Le conjoint amoureux d'une borderline peut apprendre à transiger adéquatement avec elle. Il peut être aidé en ce sens, et le couple sera gagnant. Il faut penser que s'il s'est lié à elle, c'est qu'il l'aime, et que les irritants valent la peine d'être travaillés. Entre autres, le conjoint pourra être plus tolérant s'il sait d'emblée que son amoureuse a tendance à osciller impulsivement dans ses sentiments, en l'idéalisant d'abord, pour vouloir le congédier l'instant d'après, en le voyant comme très bon puis très mauvais, comme un ange et ensuite démon, comme sauveur et puis persécuteur. S'il voit qu'elle peut s'impliquer de façon exagérée et prendre ensuite sa distance, qu'au fond, elle ne tolère ni la proximité ni la distance. Le conjoint doit savoir que le talon d'Achille de son amoureuse borderline, c'est sa peur de l'abandon et que ceci peut déclencher une série de comportements destructeurs. Il doit être sensible aussi aux réactions démesurées face à ses absences, qu'elles soient dues à ses voyages d'affaires, à son travail supplémentaire en soirée et en fin de semaine, ou simplement à ses retards. À cause de cela, certains emplois sont à proscrire. L'engagement amoureux doit être clair et les limites de disponibilité doivent être clarifiées d'avance. Le conjoint d'une borderline doit apprendre aussi que dans les périodes de grand stress, il doit s'exercer à contenir les émotions négatives de sa conjointe borderline, surtout la colère. L'idéal est de l'amener à verbaliser sa frustration, ce qui l'empêchera d'agir de façon regrettable. Dans ces situations, le conjoint n'a pas le loisir d'être émotif lui-même. Il doit se contenir et se concentrer sur celle qu'il aime. Il doit trouver la façon adéquate d'exprimer ses émotions avec franchise, cependant. Et il doit être très sincère dans la recherche de solutions à des conflits. La meilleure position dans ces cas, c'est de travailler à deux, en collaboration, au renforcement de la confiance mutuelle par une communication honnête et claire, de façon consistante. Ce qui peut aider énormément, c'est que chaque conjoint accepte cette réalité que le borderline est aux prises avec la difficulté de maîtriser ses colères et que les deux amoureux s'épaulent dans la recherche des meilleures attitudes à ce sujet quand un conflit éclate. Ceci aidera à implanter la bonne marche à suivre. Deux points. Le conjoint doit manifester à la fois de l'empathie et à la fois, il doit signaler l'irrécevabilité de l'agressivité en cherchant à l'apaiser. Alors, on passe au chapitre suivant qui entame la question des désirs extra-conjugaux. Et dans un premier temps, vous allez voir que je fais allusion à l'importance des relations interpersonnelles pour démontrer que l'infidélité venant jouer dans cette dimension, on joue avec de la dynamite. Alors, mon titre, les désirs extra-conjugaux sous contrôle. La personnalité borderline peut donner lieu à des vengeances redoutables en matière d'infidélité. Si une personne affectée de ce trouble a le sentiment d'être négligée ou si elle a peur de perdre son conjoint, elle est susceptible de réagir par l'infidélité. Marie-Pierre, par exemple, qui éprouvait un besoin criant d'être aimée au point d'être envahissante, avait l'habitude de succomber à des tentations d'infidélité de façon impulsive. Ses amours extra-conjugaux étaient de forte intensité, mais de courte durée. Ses escapades, qui répondaient à son besoin d'émotions fortes, lui servaient en même temps de vengeance contre son conjoint, car elle se percevait comme une victime dans sa relation conjugale intempestive. Marie-Pierre ne réalisait pas que ces cycles de périodes d'idéalisation de son conjoint, suivis de dévalorisation mortifiante, plongeaient celui-ci dans la détresse. Au lieu de se remettre en question, elle s'éparpillait dangereusement dans diverses conquêtes frivoles. Mais elle était tellement attachée à son mari qu'elle n'envisageait pas pour autant de le laisser. Cela est typique avec les borderline. Joanne Côté s'exprime ainsi. Une cliente atteinte du cancer, à qui il ne reste pas beaucoup de temps à vivre, vient d'apprendre que son mari la trompe. L'intensité de sa douleur me fait voir l'ampleur des conséquences de l'infidélité, la force du lien amoureux et surtout l'importance des liens dans la vie. Il semble que son mari ait commis une bévue tout en aimant quand même sa tendre conjointe. Mais il n'a pas réalisé qu'il manipulait de la dynamite. Au cours de ma carrière, dit Joanne Côté, j'ai été témoin de centaines, sinon de milliers de scénarios semblables qui crèvent le cœur. Où a-t-on la tête quand on se laisse aller naïvement à des pulsions qui infligeront de telles souffrances à l'être aimé? La plupart du temps, les amours illicites font bien plus mal qu'on aurait cru. Comment témoigner de cela sans tomber dans l'attitude moralisatrice? Point d'interrogation. La gentillesse dans le couple passe par le contrôle de la colère et aussi par le contrôle des pulsions sexuelles. L'attirance sexuelle donne du zeste à notre vie quotidienne. Les rencontres fortuites de belles personnes séduisantes ensoleillent notre routine. L'ennui, c'est que nous ressentons deux pulsions contradictoires et simultanées. D'un côté, nous aimerions avoir accès librement à de multiples corps désirables, mais de l'autre côté, nous voulons vivre avec une personne qui nous aime assez pour se restreindre à notre propre personne. Chacun de nous doit résoudre ce dilemme-là, affirmait Charny en 1992. Le sujet de l'infidélité nous plonge au cœur de l'intimité du couple et au cœur de l'intimité de chaque individu. Ce qui paraît au premier abord comme un simple jeu de séduction sans conséquence peut tourner au drame. Ce qui a commencé par un fantasme solitaire dans la zone la plus secrète d'un individu peut finalement détruire sa famille. Nous avons peut-être tendance à banaliser l'infidélité comme si c'était devenu plus ou moins normal, voire même avantageux. Si la tolérance à l'infidélité est souhaitable et même profitable pour une société globale, car elle contribue à vaincre l'étouffement des diverses restrictions de la vie et à fuir des situations désolantes, l'infidélité est néanmoins pénible la plupart du temps pour les proches de l'infidèle et bien souvent pour lui-même. C'est un peu comme pour la violence dans les films de gangsters. Ça nous amuse jusqu'au jour où nous sommes personnellement touchés. Ce n'est pas par hasard si l'infidélité est l'une des raisons majeures qui amènent les couples en psychothérapie. Nous sommes ennuyés, Joanne Côté et moi, Yves Dalpé, par les journalistes et les supposés connaisseurs qui pensent réinventer le monde avec les nouvelles idées concernant la liberté sexuelle de nos jours. Dans un article paru en 2017, une journaliste du journal La Presse semblait s'être délectée des propos de la sexologue Esther Perel provenant de son livre qui s'intitule The State of Affairs, Rethinking Infidelity. Selon la journaliste, la gourou du sexe de New York, la thérapeute de l'heure, lance un nouveau pavé dans la mare en explorant cette fois le tabou ultime, le désir extra-conjugal, écrivait cette journaliste. Pourtant, l'infidélité est un thème récurrent, traité de toutes sortes de façons depuis longtemps. Mais ce qui nous a fait le plus réagir, dans cet article de la presse, c'est cette question, deux points. La fin de la monogamie, point d'interrogation. Il irait presque de soi que tout le monde trompe tout le monde, souvent sans raison valable, que la monogamie serait un reliquat dépassé du patriarcat et que la majorité des gens seraient en train d'explorer de nouveaux modèles amoureux. La vérité se situe complètement à l'encontre de cette perspective sensationnaliste selon nous. Le vrai amour dont rêve la grande majorité des gens et qui nous préoccupe toute notre vie est si important qu'il est à la racine de la formation de notre cerveau. En effet, le réseau des neurones se forme à partir des émotions que suscite notre relation première avec nos parents. Ceci semble peu connu, mais c'est pourtant la réalité. Les contacts interpersonnels sont l'un des principaux facteurs qui déterminent les connexions des neurones. Dans son livre, le Dr Siegel, en 1999, explique de façon passionnante comment l'esprit d'une personne émerge de l'activité de son cerveau, dont la structure biologique est formée par ses relations interpersonnelles dès le début de sa vie et tout au cours de sa vie. Ce qui fait dire à Siegel que les connexions humaines forment les connexions des neurones. En effet, le vécu interpersonnel altère à la fois l'activité et à la fois la structure des connexions entre les neurones, formant ainsi les divers circuits responsables des divers processus du cerveau, comme la mémoire, les émotions, la conscience de soi, etc. Autrement dit, nous sommes le fruit de nos amours, et ce, à partir de notre naissance. Cette nourriture fondamentale est l'affection. C'est ce que nous avons de plus précieux au monde. Dans leur livre appuyé sur des recherches scientifiques, Pietro, Monaco et Collins, en 2017, nous font voir l'importance des liens affectifs et romantiques pour notre santé physique et mentale. Le manque de relations intimes affecte notre santé avec autant de force, sinon plus encore, que la cigarette, l'obésité et le manque d'activité physique. Les chercheurs dans ce domaine se concentrent maintenant sur la relation intime, dyadique. Par exemple, on a découvert que les encouragements que se procurent les partenaires d'un couple réduisent leur niveau hormonal de stress provoqué délibérément en laboratoire. On a vu aussi que leur appui mutuel manifesté par des paroles réduisait leur production quotidienne de cortisol, l'hormone reliée au stress, et qu'il réduisait leur susceptibilité aux infections et aux maladies. Les jours où les épouses avaient le plus de transparence dans leur communication avec leur amoureux étaient suivis de nuits empreintes d'une meilleure qualité de sommeil, même que le sentiment d'être bien écouté par leur amoureux à une période donnée se détectait encore 10 ans plus tard par le niveau de cortisol quotidien de ces femmes. Quand les gens vivent une augmentation du niveau d'intimité avec leur conjoint lors d'une journée précise, le lendemain, ils ressentent une diminution de leur malaise physique habituel. Les jours où les amoureux vivent de l'intensité physique comme de se tenir la main ou se donner une accolade, leur niveau de cortisol s'abaisse. Les gens qui se sentent compris et acceptés appréhendent la réalité de façon moins pénible. Ainsi, dans une expérience en laboratoire, les gens qui se sentaient compris avaient une plus grande tolérance à la douleur, enduraient mieux l'eau glacée, percevaient les pentes moins abruptes et estimait les distances à parcourir comme plus courtes. Au contraire, les recherches montrent que des comportements hostiles entre conjoints, comme des critiques négatives, par exemple, élèvent la pression sanguine, diminuent le système immunitaire et ralentissent la guérison de blessures. Les séparations et les divorces amènent un plus grand risque de dépression et de mortalité. En résumé, ce genre de recherche démontre clairement le lien entre la santé et le niveau d'intimité, l'acceptation et l'amour romantique. Un thème récurrent dans ces recherches concerne l'importance de la qualité du support entre conjoints. L'amoureux doit être sensible à l'écoute des objectifs de l'autre, de ses besoins et de ses préférences, ce qui amène celui-ci à se sentir compris, validé et pris à cœur. Le support adéquat augmente la satisfaction, l'intimité et la confiance, alors que l'hostilité, le blâme et l'ambivalence érodent la qualité relationnelle. Or, les recherches reliées à la théorie de l'attachement nous confirment que ce sont les attachés anxieux qui appréhendent un manque de gentillesse venant de leur conjoint par rapport à leurs besoins et qui se montrent trop à l'affût des menaces de leur relation amoureuse. Ce sont eux qui sont les plus susceptibles de subir des réactions déréglées de l'hormone du stress, le cortisol, une plus grande réactivité cardiovasculaire, de l'inflammation cardiovasculaire et d'avoir un système immunitaire plus pauvre, des comportements plus risqués eu égard à la santé et une moins bonne santé. Tout cela pour dire que les liens amoureux sont d'une importance telle qu'il nous apparaît ridicule de penser que la plupart des gens les prennent à la légère. Nous croyons que ce sont surtout les mal-aimés qui cherchent fébrilement de nouvelles modalités susceptibles de mieux leur convenir. Nous sommes donc sceptiques face aux conceptions de l'amour à tout vent. On a beau chercher la formule magique, on finira toujours par se confronter aux différences des autres humains avec qui nous partageons notre intimité, de quelque forme que prenne le lien amoureux. Les mauvais caractères continueront à se buter à leurs intimes tout en les faisant souffrir, qu'ils soient dans un mariage traditionnel ou dans une relation polyamoureuse. Alors, je vais arrêter ici pour aujourd'hui à cause du minutage et au cours du prochain épisode, je continuerai là, sur la question des désirs extra-conjugaux. Alors, c'était Psycho Balado, chers auditeurs. Je vous rappelle que je suis psychologue dans la ville de Québec, au Canada, et puis que vous pouvez visiter mon site Internet pour en savoir un petit peu plus sur mes services, sur mes livres divers, en allant à www.dalpecote.com. Alors, bon deux semaines à chacun. Au plaisir de se retrouver.